La fenaison quittait Paris à l'époque des chaleurs et se trouvait subitement transformée en pleine nature au moment de la fenaison. Quel changement, quelle surprise, quelle joie! De tous côtés, la campagne embaume. Les faucheurs sont à l'œuvre dans les prairies. Ils coupent les herbes, ils les retournent, ils entassent les meules. Ces senteurs pénétrantes accompagnent celui qui passe le long du chemin jusqu'au bout de son étape. La chaleur les rend plus vives et la brise les transporte et les propage. Me voici arrivé devant les premières maisons du village que j'aperçois au ras de la plaine entre des bosquets d'arbres. Je retrouve l'odeur des foins. Quelques bottelées posées au hasard près d'une porte, semble renouveler la sensation que j'ai d'abord éprouvée. J'entre à l'auberge et le soir, après le repas, je puis encore me saturer de cet arôme qui devient à la longue grisant et capiteux. Si je sors un moment, une brise molle me jette au visage le même parfum à travers la fraîcheur de la nuit. Dans la modeste chambre où je laisserai les fenêtres entrouvertes, je vais goûter un sommeil vraiment apaisant et tout embaumé. Le lendemain, en me réveillant de bonne heure, j'entends un bruit de faux, de chaos, de charrettes, des appels de voix. Je distingue au loin les chariots qui se succèdent sur la grande route et qui vont rentrer au milieu de prairies. L'élan que donne l'air du matin, la vivacité qu'on éprouve en soi grâce au renouveau de toute chose, le désir excitant qui pousse à regarder et à connaître, tout engage à courir à travers les prés et à suivre des yeux le travail des faucheurs. Des cris aigus d'alouettes percent par moments l'air matinal. Les oiseaux ne sont-ils pas troublés eux-mêmes par cette fenaison? N'ont-ils pas laissé leur nid dans les herbes? Le mouvement, le va-et-vient des travailleurs épars dans la plaine, l'agitation incessante des faux ne manque pas de les effrayer, et quand ils se sont approchés de trop près, ils s'envolent en toute hâte, rencontrant partout à l'horizon le même appareil, les mêmes bruits, la même besogne. Ils vont se réfugier dans les buissons et sous le couvert des taillis. Dans les prairies, les faucheurs avancent par files régulières. Quelques-uns s'arrêtent pour aiguiser et mouiller leurs faux, qu'on entend encore grincer au bout d'un instant. Ces scènes de la fenaison, certes, ne sont point nouvelles, mais tandis que je contemple la nappe luxuriante qu'on dépouille lentement, je reconnais que je suis venu dans un pays de vastes plaines et de gros pâturages. Je découvre de tous côtés un bataillon serré, une multitude de faucheurs. L'immense campagne s'étend sans fin. C'est la plaine du Nord. Un clocher s'y détache. Quelques buttes boisées s'y dressent. Cette fenaison a ici je ne sais quoi de large, de grandiose, grâce à la répétition du même acte rustique. Une fermière, conduisant un âne qui porte des paniers remplis de vivres et des tonnelets de bière, m'aperçoit au bord d'un sentier, les yeux fixés sur la verte surface qui se déroule à perte de vue. Elle incline la tête et m'adresse un bonjour. « Tout le monde est à l'ouvrage, lui dis-je. L'herbe est épaisse et vous allez voir, cela bien sûr une belle fenaison. »« Oh !» me répond-elle. Ici, c'est tout pays de prairies. Dans notre contrée, on rencontre fort peu de champs de blé. Le rendement n'était plus fait pour nous contenter. Nous avons partout des prés aujourd'hui. Les ruisseaux ne nous manquent pas pour alimenter la verdure. Il y a dans notre terroir des eaux stagnantes et beaucoup d'eau courante. Nous ouvrons nos vannes pour l'arrosage. Nous avons tracé des rigoles. Aussi personne ne se plaint. Nous vendons bien notre foin et nous faisons en grand l'élevage du bétail. J'avais aperçu, pendant que ma fermière s'éloignait par un sentier herbeux, un troupeau de vaches allongeant leur poitrail dans l'herbe et les étalons aux croupes luisantes, s'agitant, bondissant en liberté. La physionomie de la plaine indiquait bien le genre de culture et l'aspect du village prouvait que chaque ménage y était prospère. J'avais entendu dire le soir à l'auberge que la première coupe donnerait de quoi satisfaire tout le monde. Les pluies fécondantes avaient engraissé les herbages et la campagne n'avait point souffert de la sécheresse. Je n'étais pas surpris de trouver la plaine aussi verdoyante et aussi brillante. L'été semblait par excellence en ce pays la saison limpide et dorée. Je suis rentré au village au moment où le soleil est de plus en plus vif dardait sur les travailleurs. J'avais besoin de chercher le repos et la fraîcheur en déjeunant sous les tonnelles de l'auberge. Au bout de quelques heures, et malgré la chaleur de l'après-midi, je suis revenu instinctivement vers les prairies. J'ai fait halte sur un petit monticule où se dressait un bouquet de trembles, et je me suis assis non loin d'une source jaillissante entre des touffes de roseaux et courant dans les mantes. Je trouve encore l'occasion d'observer les faneurs. Un vieux, quelque peu harassé, est allé s'étendre dans une salle au lait. Une jeune fille s'approche, un bidon à la main, et vient puiser à la source. Elle a soif et boit avec empressement à l'ustensile qu'elle a rempli. Elle est sur le point de disparaître lorsqu'un gars qui survient l'appelle comme si la rencontre était préparée d'avance. Le jeune homme a certainement laissé sa faux sous un prétexte quelconque. Il a l'air de chercher une explication. « Faustine, dit-il, n'osais point te parler tout à l'heure, mais pendant que tu es occupé à boire ton eau claire, je te demanderais ce qu'est devenue cette promesse de mariage. T'en avais parlé à tes parents. Ça devait être pour la fenaison que nous serions accordés. » Ah, fit-elle en riant, en fait de mariage, on ne doit pas se presser, il faut encore le temps de la réflexion. Ce sera pour la moisson que je te rendrai réponse. Et elle se sauve en laissant le jeune homme embarrassé, n'osant courir pour la rattraper, de peur de s'exposer à quelques reproches. Le galant a d'ailleurs lui aussi une cruche à remplir à la source. Le vieux, qui s'était couché au pied de la meule, s'est redressé et s'approche à son tour, trouvant sans doute que l'endroit est plus frais que la prairie. « Eh bien, dit le vieux à jeune homme, a-t-elle accepté ? Parle à sa mère, mon garçon, parle-lui, mais ose donc lui parler. » Et pendant que le prétendant décontenancé quitte la place, je suis des yeux les groupes de travailleurs. Je ne vois plus la jeune fille de tout à l'heure. Je ne distingue au loin qu'une rangée confuse de villageois et de villageoises qui se démènent au grand soleil. Aux abords du village, çà et là, je retrouve encore, vers le soir, une continuation en petit de la fenaison. On fauche des prés de quelques toises à côté des maisonnettes qui forment les premières rues. Et l'on fauche aussi la prairie du presbytère, près d'un clos de pommiers, dont la récolte est réservée au curé de l'endroit. Monsieur le curé lui-même, courbé sur les herbes, laissant voir ses bras de coton noir sous la soutane relevée, promène la faux un moment et la repasse ensuite à un voisin qui lui a prêté son aide. À mesure que le soleil s'abaisse, un mouvement nouveau se fait dans la plaine. Quelques villageois entassent çà et là dans les charrettes le foin coupé les premiers jours et qui était suffisamment retourné. Des femmes, juchées au-dessus, reçoivent les bottes déjà desséchées qu'on leur fait passer avec des fourches. Bientôt, les chariots emportent la lourde cargaison qui les encombre. Des râteaux sont plantés au milieu des herbes. On voit se balancer par derrière les tonnelles vides dont le contenu a abreuvé les travailleurs. Je revois la fermière que j'ai rencontrée tout d'abord, accompagnée de son âne. Plus d'une bande joyeuse défile dans les rues. Oh, je ne me trompe pas. Voici Faustine se dressant sur un morceau de foin. Certes, le jeune homme ne doit pas se trouver bien loin. Il avance en effet à côté de ses chevaux qu'il conduit. Il a sans doute parlé à la mère car il est tout souriant et Faustine et lui semblent enfin d'intelligence. Au bout d'un instant, comme je me rapproche de mon auberge, j'ai aperçu le bonhomme qui était venu se reposer dans la saulaie près de la source. Il grommelle en faisant la conversation avec un voisin. « Ben, j'ai voulu travailler aujourd'hui, comme tout le monde, dit-il. Je puis plus tenir la faux. C'est un outil qui est rude à employer, même pour les jeunes gens. Alors, c'est peu à peu la mort de l'homme. » Le vieux se doute que je l'écoute, et il continue ses plaintes plus haut avec l'intention de me les faire entendre. « Bien plus de simplicité au visage, lâche comme jadis. Ne les voyez, ces faneuses qui rentrent en portant leur ombrelle. Pour un peu, on les verrait travailler à costume du dimanche. Et les garçons, menteurs avec les filles, et pressés de courir à l'auberge. Oh, les fenaisons se faisaient mieux autrefois, bien qu'on eût moins de foin à recueillir. Et quand elles étaient terminées, on rentrait au village en sonnant de la trompe. Le vieux a retrouvé sa vieille qui fait chorus avec lui. Je laisse mon paysan à ses lamentations. On ne doit assurément jamais oublier les servitudes quotidiennes. La faux est pénible à manier. Elle force l'homme à se courber. Elle pèse et meurtrit la langue. On ne s'aperçoit guère, il est vrai, des lentes conséquences de l'usage de cet instrument lorsqu'on regarde les faucheurs revenant au village. Après le souper, lorsque je me prépare à jouir encore par la douceur du soir du délicieux arôme, des émanations balsamiques qui s'échappent des prés, je les vois se grouper au seuil des portes. Ils causent bruyamment entre eux, tout en contemplant d'un air indifférent la plaine où ils viennent de faire une si belle dévastation.